Et à 18h, bien sûr, c'est l'heure du journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron de nouveau offensif vis-à-vis de la Russie. Depuis Prague, le chef de l'État appelle les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches, nous l'entendrons. Scrutin local, mais enjeux nationaux. Le dossier de ce journal sera consacré aux élections municipales en Turquie. Nous en mesurerons les enjeux avec Marie-Pierre Véraud. Porté notamment par la défense et la sécurité numérique, le groupe Thales est en pleine forme, mais il va restructurer son activité spatiale. Nous verrons pourquoi avec Hakim Kasmi. Les mesures de sécurité imposées au JO cet été gâcheront-elles la fête populaire qu'on nous annonçait ? Mathieu Laurent suit l'audition au Sénat du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le soutien français à l'Ukraine est sans ambiguïté. C'est le message que veut porter Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est venu confirmer à Prague son appui à une initiative tchèque visant à acheter des munitions hors Union européenne pour l'Ukraine. Le chef de l'État, qui semblait isolé depuis ses propos sur l'envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine, veut montrer qu'il est droit dans ses bottes. Reportage à Prague de Maxence Lambrecq.
Avant de retourner en Ukraine, sans doute la semaine prochaine, Emmanuel Macron veut faire vivre ce débat sur l'envoi de troupes. À ses yeux, écarter cette question, c'est faire preuve de lâcheté.
Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre ? Pouvons-nous nous détourner, considérer que les choses peuvent continuer à se jouer ? Je ne crois pas. Et donc, c'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et que j'assume. Pleinement.
Il espère avoir raison avant tout le monde. Pour lui, les réactions hostiles à ses propos de lundi dernier révèlent une faiblesse.
Si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Pas chez nous.
Pas chez nous. Emmanuel Macron rappelle que les menaces de Vladimir Poutine ne datent pas d'hier. Après l'envoi de chars, d'avions, d'obus, il a toujours brandi l'arme nucléaire. Ça ne doit pas nous intimider. À sa gauche, le président tchèque admet qu'on ne peut pas se contenter du soutien actuel. En fixant pour ligne rouge l'envoi de troupes combattantes, il entre-ouvre la porte à des missions de formation qu'envisage Paris. Mais à court terme, les Tchèques attendent l'aide de la France pour acheter des munitions en dehors de l'UE. Emmanuel Macron n'en a pas encore précisé le montant.
Aujourd'hui, la Commission européenne a proposé de renforcer drastiquement l'industrie de défense de l'Union, d'une part pour faire face à la menace russe, d'autre part pour moins dépendre des États-Unis dans la production d'armement. Svoboda, liberté en russe, c'est le nom du satellite lancé par Reporters sans frontières. L'ONG compte ainsi offrir aux citoyens russes coupés des médias indépendants l'accès à plusieurs chaînes de télévision et radio indépendantes russophones. Le lancement de ce bouquet satellitaire a été symboliquement annoncé à Bruxelles, en présence d'opposants russes en exil et de membres du Parlement européen. Vous y étiez, Angélique Boin.
Radio Sakharov, Echo, Ost-Ouest 24. Ces 9 chaînes sont produites par des journalistes en exil installés à Berlin ou en Suisse. Journaux, tables rondes. L'objectif est de toucher 10 à 12 millions de Russes équipés des bonnes antennes. Il faut contourner le redoutable système de censure des médias et d'Internet imposé par Moscou, explique Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières.
On est dans un système où ce sont des régimes autoritaires, comme celui de Moscou, qui exportent leur propagande vers des démocraties. Là, avec Svoboda, nous faisons en sorte que depuis des démocraties soit exporté du journalisme indépendant, du journalisme digne de ce nom. On réalise concrètement un travail qui permet d'apporter de l'information dans le salon et les cuisines des Russes.
On me demande souvent pourquoi les Russes ne se révoltent pas, témoigne Olga Prokopieva, porte-parole de l'association Russie Liberté engagée dans ce projet. C'est souvent, dit-elle, faute d'information.
Étant déstabilisé par une information qui n'est pas claire, fausse, ils préfèrent se désintéresser de la guerre et surtout se désintéresser de l'activité civique, de contestation et de protestation.
800 000 foyers ukrainiens des zones occupées par la Russie pourront aussi les recevoir. À terme, ce bouquet comprendra jusqu'à 25 médias indépendants en langue russe.
Angélique Boin à Bruxelles. L'ONU appelle le monde à inonder Gaza d'aide pour éviter aux enfants de mourir de faim. Les Nations Unies jugent la famine presque inévitable dans le territoire palestinien en raison des représailles israéliennes depuis les attaques du Hamas du 7 octobre. Ces derniers jours, selon l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs enfants, dont des bébés, sont morts de déshydratation à l'hôpital Kamal Adwan au nord de la bande de Gaza. Jérémy Lange.
Avant la guerre, Gaza n'avait quasiment jamais été confronté à la faim. Aujourd'hui, 5% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë à Rafah, là où la nourriture parvient pourtant plus facilement. Le taux monte à plus de 15% au nord de l'enclave, où au moins 10 enfants sont donc morts de soif ces derniers jours. Le ministère de la Santé du Hamas évoque même 15 victimes si on remonte plus loin. Voilà ce que ça veut dire quand l'aide humanitaire est bloquée, explique James Elder, c'est le porte-parole de l'UNICEF.
Il faut comprendre ce que ça veut dire pour un bébé de mourir de déshydratation dans un hôpital. Ça veut dire qu'on essaye d'abord de le perfuser, mais on n'y arrive pas parce qu'on ne trouve pas de veine. Alors s'il y a encore du personnel médical pour ça, on va essayer de piquer une veine dans la tête. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour le bébé et pour les parents. Mais là aussi, ça ne va pas marcher. Alors on va poser un tube dans la trachée jusque dans l'œsophage. Et ça ne marchera pas encore une fois.
Ceux qui ne souffrent pas de la faim souffrent à minima de la pauvreté de la nourriture qu'ils reçoivent. 90% des enfants et 95% des femmes enceintes ne mangent qu'un ou deux types d'aliments différents par jour et d'une très faible qualité nutritionnelle. L'UNICEF prévient, le nombre de morts chez les enfants va exploser en très peu de temps si l'aide humanitaire ne parvient pas rapidement, massivement et partout dans la bande de Gaza.
Jérémy Lange à Genève pour RFI et France Culture. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle avec insistance le Hamas à accepter un cessez-le-feu immédiat avec Israël. Les négociations se poursuivent au Caire. Aux États-Unis, c'est une grande journée de campagne. 15 États organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Mais le Super Tuesday n'a pas la même saveur cette année. Donald Trump est de loin le favori côté républicain. Et Joe Biden, candidat à sa réélection, ne fait face à aucune opposition sérieuse. Des élections municipales se tiendront en Turquie à la fin du mois et elles s'annoncent très disputées. C'est un scrutin local mais qui revêt un enjeu national. Les grandes villes sont le dernier levier de pouvoir de l'opposition qui a perdu les législatives et la présidentielle. De son côté, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, entend parachever son contrôle total du pays. La campagne bat donc son plein, en particulier à Istanbul. Le reportage de Marie-Pierre Véraud.
Murat Kurum, le candidat du président Erdogan à Istanbul. Visage sage, petite moustache réglementaire, ce fonctionnaire ancien ministre de l'Environnement mène une campagne tranquille. Le voilà à Fatih, quartier conservateur sur la péninsule historique. Il sourit, prend la pose pour des selfies, serre des mains. Pas de grand discours, Murat Kurum est peu connu pour ses talents oratoires. Mais ce n'est guère gênant, c'est Erdogan qui mène la campagne, comme d'ailleurs pour chaque élection. Bahadir, membre du mouvement de jeunesse de l'AKP.
Dans notre parti, à chaque élection, c'est lui le candidat. Le chef de chaque campagne, c'est lui. Et nous, nous suivons toujours le chef pour servir le peuple.
Le visage du président est sur toutes les affiches, tous les murs et panneaux d'Istanbul et du pays. Omniprésent, Recep Tayyip Erdogan enchaîne les réunions publiques, sillonne le pays, parfois jusqu'à 3 villes dans la même journée. À Istanbul, perdu en 2019, il dénonce.
Nous avons perdu 5 ans. Pourquoi ne s'est-il rien passé? Parce que ce sont des incapables, parce qu'ils ne veulent rien faire. En venant jusqu'ici, nous n'avons vu que des bâtiments délabrés, les murailles de la ville qui tombent en ruine. Avec l'aide de Dieu, le 31 mars, Murat Kurum va reprendre cette ville et conduira promptement nos projets.
Mais le maire d'opposition, Ekrem İmamoğlu, arpente lui aussi sa ville. Sur le toit de son bus de campagne, à Gazi Osman Pasha, un quartier populaire, conservateur, il vient vanter les équipements qu'il a inaugurés. Piscine, crèche, salle de sport. Firdevs, retraitée et conquise.
Il a donné des coupons de nourriture aux maires. Il aide les retraités. İmamoğlu a toute notre confiance. On espère qu'il va pouvoir continuer ainsi. Il est présent partout. Il est proche des pauvres et des orphelins. Regardez ma fille, elle n'a pas de mari, mais elle a des enfants. İmamoğlu donne du lait et tout ce qui est nécessaire. Si Dieu le veut, il va gagner de nouveau.
Tous ici disent souffrir de la crise économique. Zeynep, la trentaine, tient sa fillette par la main.
On en a marre des hausses de prix, toujours. Les hausses. Dans les supermarchés, les étiquettes changent tout le temps. Le pain coûtait 1 livre, après 5 livres, et maintenant c'est 10 livres. On achète 2 pains, cela fait 20 livres. Un petit gâteau pour un enfant, c'est 12 livres. C'est dur de vivre en Turquie.
De toutes les villes, Istanbul est la plus convoitée. Le président Erdogan a juré de la reprendre. Humilié d'avoir dû la céder en 2019, une question d'honneur, de revanche donc, mais pas seulement, Berk Essen, professeur de sciences politiques à l'université Sabancı.
La métropole d'Istanbul dispose d'énormes moyens. Cela en fait un poste politique très important parce que le maire contrôle une masse de ressources publiques qu'il peut distribuer pour fournir des aides sociales, améliorer les services publics au bénéfice de millions d'électeurs qui ensuite pourront choisir son parti lors des élections nationales.
Le scrutin s'annonce serré cette année. L'opposition s'avance en rang dispersé. Le parti Pro-Kurde, notamment, présente des candidats qui pourraient grignoter des voix précieuses pour l'opposition.
Marie-Pierre Véro à Istanbul pour France Culture. Le groupe Thales a connu en 2023 une nouvelle année record. Il affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5% et des prises de commandes stables pour plus de 23 milliards d'euros. Mais si l'aviation, l'aéronautique, la défense se portent très bien, le groupe connaît des difficultés dans la branche spatiale et le marché des satellites de communication est en baisse. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
Thales a donc décidé un redéploiement de 1300 salariés, dont 1000 en France, sur les sites de Toulouse et de Cannes.
Oui, Thales dit bénéficier pourtant de perspectives de croissance favorables dans sa branche spatiale, notamment pour ce qui concerne l'observation de la Terre, l'exploration, la navigation, ainsi que les télécommunications militaires. La situation est en revanche beaucoup plus compliquée pour les télécoms civils, qui représentent un tiers de son activité, estime Patrice Ken, le PDG de Thales.
Quand on regarde le marché devant nous, on se dit que il est probablement de manière durable deux fois moindre que ce qu'il était les années passées. Il y avait environ une vingtaine de satellites géostationnaires qui étaient commandés par les grands clients, les grands opérateurs satellites dans le monde. Aujourd'hui, notre vision est qu'on est plutôt sur un marché d'une taille de 10 satellites par an. Donc déjà, voilà, une baisse importante de ce marché. Donc il faut se remettre à ce niveau-là. Et puis les satellites que nous faisons aussi, qui sont plus complexe, plus capacitif, plus performant, demande moins d'heures de production. On est un peu victime, si je puis dire, du progrès technique, et donc il faut moins d'heures de production, donc moins de personnes, effectivement, pour produire ces satellites, d'où le fait qu'on se réadapte à cette nouvelle donne, cette fois-ci technologique, et non pas de marché.
Pour autant, si les ingénieurs pourront être plus facilement réaffectés à d'autres missions, notamment dans l'aéronautique, qui se porte bien en ce moment, sans changer de site, en restant sur les sites de Toulouse et de Cannes, au moins pendant 2 ans, ça sera en revanche beaucoup plus compliqué pour les postes administratifs, estiment les syndicats, ce qui pourrait générer de l'éloignement géographique s'ils souhaitent rester dans l'entreprise, un éloignement auquel ne sont pas prêts tous les salariés concernés par ce plan. Résultat, certains d'entre eux pourraient même démissionner. La direction qui doit rencontrer prochainement les syndicats n'a pas souhaité pour l'instant nous communiquer le détail précis des postes concernés sur les sites cannois et toulousains.
Hakim Kasmi, des perquisitions dans les locaux de la mairie de Paris. Elles se déroulent dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en novembre pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics relative à un voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie française. Cette ouverture d'enquête fait suite à une plainte d'une association anticorruption et au signalement de plusieurs élus du Conseil de Paris et de la région Île-de-France. Le site internet de Paris 2024 vante toujours la magie des Jeux et promet aux futurs spectateurs des moments inoubliables. Mais l'organisation des JO cet été en France représente un défi sécuritaire majeur, défi sur lequel a été auditionné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin cet après-midi au Sénat. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Pour gérer l'événement, de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille le 8 mai à la fin des Jeux paralympiques mi-septembre, il va falloir mobiliser des dizaines de milliers de personnes pour assurer la sécurité. Et l'un des points névralgiques, Mathieu, c'est bien sûr l'organisation de la cérémonie d'ouverture.
La première fois qu'on aura une cérémonie d'ouverture hors d'un stade se targue la place Beauvau, qui relève là le défi logistique le plus important de son histoire. Attendez-vous, il y a une avalanche de données qui disent à la fois le gigantisme et la démesure. 94 bateaux vont naviguer sur les 6 km de Seine entre la gare d'Austerlitz et le Trocadéro. 222 000 spectateurs sont attendus sur les quais hauts. Place gratuite, là, attribuée dans la limite des quotas d'invitation disponibles de structures baptisées tiers de confiance, à savoir Paris 2024, la région, les conseils départementaux, les villes hautes et l'État. À cela, ajoutons 104 000 spectateurs sur les quais bas et là, place payante, y compris très chère, ce qui altère la dimension populaire de cette cérémonie d'ouverture. Une jauge revue à la baisse dans le cadre d'un plan B. Sécurité oblige, tranche le ministre. Il faut, ajoute-t-il, pouvoir gérer les foules.
Et alors justement, qu'est-ce qu'on sait de la menace à ce jour?
Eh bien, la DGSI a déjà pris des mesures d'entrave, procédé à des prévisites domiciliaires et doit mener 1 million d'enquêtes administratives. Sur 100 000 enquêtes d'ores et déjà bouclées, l'on compte 280 avis d'incompatibilité ainsi que 6 fichiers S découverts. Pour autant, pas de menace terroriste à ce jour, mais des menaces dites contestataires, dont celle attribuée, je cite, à des environnementalistes radicaux. Fin de citation. La crainte la plus lourde reste une attaque par drone chargé d'explosifs. À cet égard, un dispositif anti-drone sera activé, celui-là même qui a fait la preuve de sa fiabilité lors de la Coupe du Monde du Qatar. Pour la première fois, le RAID et le GIGN se sont répartis les missions 100 heures. Le GIGN sur les bateaux, le RAID sera chargé des points surélevés et la BRI sera en alerte en cas d'attaque terroriste. 650 unités d'élite mobilisées au total, appuyées par 2 hélicoptères. Enfin, l'espace aérien sera fermé dans un rayon de 150 km autour de Paris de 19h à minuit lors de la parade inaugurale.
Merci Mathieu Laurent. Le cinéaste Roman Polanski est jugé en diffamation. Il avait qualifié d'odieux mensonges les accusations d'agression sexuelle lancées contre lui par l'actrice britannique Charlotte Lewis, l'actrice qui est venue à Paris pour l'audience, contrairement au cinéaste. Vous êtes au tribunal, Aurore Richard, et vous avez écouté le témoignage de Charlotte Lewis. Pour justifier sa plainte, elle est revenue sur le fond de l'affaire et sur ses accusations à l'encontre de Roman Polanski.
Oui, Charlotte Lewis est revenue sur cette nuit à Paris en 1983. Elle est dans l'appartement de Roman Polanski avec une amie. Celle-ci s'endort et c'est là qu'elle se retrouve seule avec le cinéaste. Et c'est là, dit-elle, qu'il la viole. Elle était alors âgée de 16 ans. Charlotte Lewis explique qu'à l'époque, elle n'avait pas réalisé ce qui s'était passé. À l'audience, entre l'émotion et la nécessité de traduire ses propos de l'anglais au français, l'actrice britannique a dû mal à se faire comprendre. Mais elle insiste, elle admirait Roman Polanski, il était son mentor et elle a mis plus de 30 ans à réaliser ce qu'elle avait vécu. C'est pourquoi en 2010, Charlotte Lewis organise une conférence de presse et révèle avoir été agressée sexuellement par le réalisateur. C'est aussi en 2010, précise-t-elle, qu'une campagne de diffamation a été lancée contre moi. Beaucoup ne croient pas ces accusations et dans une partie de la presse, elle était traitée de menteuse, de prostituée, et ça a failli détruire ma vie, assure-t-elle aujourd'hui. Alors en 2019, quand elle lit cet article de Paris Match dans lequel Roman Polanski parle de mensonges odieux pour qualifier ses accusations, Charlotte Lewis décide de porter plainte pour diffamation. « J'avais besoin, conclut-elle, de laver mon honneur pour moi et pour mon fils. »
Aurore Richard avec les moyens techniques de Julien Girard. C'était le dramaturge anglais contemporain le plus joué en France. Edward Bond est mort. Présent dans la cour d'honneur d'Avignon dès 1970 dans une mise en scène de George Wilson, il avait été révélé par sa pièce Sauvé qui avait fait scandale en 1965 parce qu'elle mettait en scène le meurtre d'un nourrisson. Edward Bond aura signé une quarantaine de pièces, écrit également pour la radio, le cinéma, la télévision, l'opéra, pour des ballets chorégraphiques. Il a aussi écrit des adaptations ou traductions d'œuvres étrangères et encore de nombreux poèmes. Celui qui avait grandi dans une famille ouvrière marquée par la Seconde Guerre mondiale s'était confié à Laure Adler en 2013 sur notre antenne.
Quand j'étais adolescent, le monde me semblait être un endroit tellement bizarre, ça me frappait, c'était vraiment frappant et j'avais besoin d'y réfléchir. J'aurais pu devenir un compositeur de musique, mais on n'avait pas d'instrument de musique, ni de moyens même d'apprendre comment écrire la musique à la maison. J'aurais pu devenir peintre, j'aurais bien aimé devenir un peintre. La peinture a beaucoup d'importance pour moi et se retrouve aussi dans mes pièces. Je crois que je suis un écrivain influencé par la peinture bien plus que par d'autres écrivains, par l'œuvre d'autres écrivains. Mais de toute façon, j'avais besoin de trouver une forme de compréhension de ce que le monde voulait dire. Et la seule forme d'art accessible à quelqu'un qui venait d'un milieu prolétaire comme moi, c'était le théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire les pièces. Mais à la fin de la guerre, il y avait un gouvernement de gauche, un gouvernement travailliste au Royaume-Uni, et ils ont décidé que les enfants des quartiers ouvriers allaient recevoir un peu de culture générale. C'est d'ailleurs très bien. parce que ce qui caractérise notre espèce, ce n'est pas que nous sommes rationnels, mais que nous faisons du théâtre. On ne pourrait pas exister sans le théâtre. Nous faisons du théâtre de ce que nous vivons. Et donc, on m'a emmené voir une représentation d'une pièce qui était Macbeth, et ça a changé ma vie.
Traduction de David Tuaillon et sur le site de France Culture, vous pouvez notamment réécouter une série d'Avoix nues avec Edward Bond. Et nous avons aussi appris le décès de Jean-Pierre Bourter, compositeur de tubes de Claude François. On lui doit les mélodies de Y'a le printemps qui chante, Le téléphone pleure, Magnolia Forever ou encore Alexandrie Alexandra qui a marqué un tournant dans la carrière du chanteur.
Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda.
Jean-Pierre Bourter, avec 82 ans, le ciel restera souvent très nuageux, voire pluvieux demain matin, mais le soleil dominera dans le sud et l'emportera en fin de journée dans la plupart des régions. Les températures minimales iront de 1 à 6 degrés. L'après-midi, il fera 9 à 14 en général, 13 à 17 sur le sud Aquitaine et le pourtour sur le pourtour méditerranéen. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.